Bonjour, bonjour. Je vais lancer en parallèle le direct sur Instagram. On est déjà en direct sur Facebook, YouTube. Voilà, super. Bon, eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous accueillir dans ce nouveau rendez-vous de 13h, les interviews 108 parcours d'hommes, 108 parcours inspirants, 108 témoignages. Et aujourd'hui, je suis ravie, Baptiste, de t'accueillir pour te permettre de déposer ta parole, de témoigner. Tu es le 32e homme, voilà, il y a bientôt un tiers. Et je suis vraiment super contente de t'accueillir. Et alors, je vais te laisser peut-être te présenter d'abord, et puis après on rentrera dans le vif du sujet.
Ok. Alors bah du coup bah merci à toi déjà pour la participation. C'est trop bien. Je suis super content de pouvoir aborder ce sujet. Alors du coup bah je m'appelle Baptiste. Je suis consultant en gamification pour les entrepreneurs. Donc grosso modo mon travail c'est mettre du jeu dans le travail des autres tout simplement et les aider à vivre de ça. Du coup j'ai grandi à Monaco. Donc j'ai grandi dans un univers où la norme c'est d'être ultra riche et ultra superficiel et ça nous apprend pas mal de choses aussi sur la vie quand on voit le rapport argent-bonheur, etc. Donc, c'était un berceau d'études assez intéressant, un beau terreau fertile pour apprendre des choses. Donc, c'était cool. Ensuite, du coup, je suis allé étudier à Nice en fac de psychologie. J'ai raté mes études complètement. Je suis tombé en dépression. J'ai passé un super moment de remise en question pour savoir qu'est-ce qui était important dans la vie ou pas. Et petit à petit, voilà, je me suis lancé. J'ai lancé mon entreprise de coaching. Et voilà, petit à petit, j'ai construit mon truc. Et aujourd'hui, bah, je suis le gars que je suis aujourd'hui. Voilà.
Dont on va parler
Dont on va
ensemble
parler.
avec joie aujourd'hui. Et moi, je t'ai découvert en lisant, c'est marrant parce que j'ai fait la connexion au moment où on s'est connecté par Messenger, je t'ai découvert en fait en lisant ton livre, enfin, un de tes nombreux livres, Les entrepreneurs du kiff, que j'ai beaucoup apprécié avec voilà, ce franc-parler aussi que tu as, cette spontanéité, cette authenticité qui est vraiment très appréciable dans ce monde d'aujourd'hui et le monde des entrepreneurs aussi. Voilà. Et j'avais envie de souligner aussi, j'avais transféré un de tes posts que tu as écrit il y a un petit mois, justement, qui était un post à propos des hommes. Et donc, ça tombait juste au moment où moi, j'ai lancé mon appel pour ces interviews. Bah, écoute, j'ai presque envie de commencer par ça, te demander, bah, tiens, parce que dans ce poste, tu parlais effectivement de l'homme qui a besoin d'avoir un espace pour pouvoir déposer ses émotions, notamment. Moi, ça m'avait beaucoup touché, hein, que l'homme avait besoin d'attention, d'amour, de se sentir utile, et qu'il avait besoin d'un espace d'écoute en fait, et c'est pas très souvent qu'on lit ce genre de poste, et j'ai envie de te demander, bah tiens, qu'est-ce qui avait motivé pour toi l'écriture de ce poste?
Alors, du coup, pour remettre un petit peu de contexte, un post, c'est le. Alors, mon travail, c'est de faire du contenu qui fait des likes, qui fait des ventes, etc. Donc, qui crée de l'engagement. Et ce post-là, c'est mon plus gros record, en fait. Il y a eu, je crois, peut-être en cumulé, j'ai dû dépasser peut-être les 350-400 partages. Donc, ça a vraiment été viral de ouf. Et je m'attendais absolument pas à ce que ça pète comme ça. Et en même temps, je suis pas si surpris que ça. Et du coup. D'où est-ce que c'est venu? Bah du coup, je crois que j'étais sur TikTok. J'étais en train de scroller, voilà, très bêtement comme on fait sur TikTok, quoi, comme un zombie. Et je tombe sur une vidéo d'une nana dans une voiture. En fait, j'ai été catché par le hook. Je parle un peu en langage marketing, mais j'ai été attrapé par le sujet de la vidéo, en gros. Et la nana disait, elle racontait une histoire, elle était dans sa voiture, elle disait, j'étais avec mon copain et j'ai dit un truc très simple. Et il s'est mis à pleurer et j'ai pas compris pourquoi. Et je lui ai juste dit, tu mérites d'être aimé. Et il s'est mis à pleurer, tout ça. Et en fait, la nana, elle disait, j'ai pas compris. Je sais pas pourquoi il surréagit entre guillemets à ça. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas ce qui se joue en fait chez mon mec. Et je me disais, ouais, bah, ça aurait pu être juste un contenu de plus sur TikTok. Et j'aurais dit, ouais, c'est inspirant, c'est mignon et on passe à autre chose. Et ensuite, j'ai vu que le post avait, je crois, plus d'un million de likes ou un truc comme ça, et autant de commentaires. Et je me dis, putain, c'est quand même, ça montre qu'il y a quelque chose, en fait. Il y a un truc qui se joue vraiment. Donc, je vais voir les commentaires. Et quand je vois les commentaires, c'est que des hommes qui disent enfin quelqu'un, enfin une femme qui a compris. Et là, je me dis, OK, il y a quelque chose à faire. Il y a vraiment y a des mots à poser quelque part parce que effectivement, il y a beaucoup de choses que les hommes conservent dans l'espace du non-dit. Et ça sanctionne autant les femmes que les hommes. Ça sanctionne la relation entre les deux. Et je me suis dit, je vais porter ma pierre à l'édifice. Je vais voir ce que je peux dire de ça. Peut-être que ça va résonner avec personne. Mais peut-être qu'il y a un mec quelque part, ça va résonner avec lui. Et alors, je ne sais plus à quelle heure j'ai publié ça, mais un truc vraiment super spontané. Je n'ai pas regardé l'heure, je n'ai pas essayé de faire...
Tu suis ton intuition quelque part.
Ouais, complètement. Mais comme je fais à chaque fois, mais là, je l'ai fait peut-être plus que d'habitude. Et du coup, je publie le post et je dis, voilà, je vais balancer tout ce que je pense de ça, tel quel, et on verra bien. Et je ne me positionne pas comme un entrepreneur qui va apporter de la valeur. Je ne me positionne pas comme un créateur de contenu. Là, je me positionne comme un homme qui parle à des hommes. Et je sais qu'il y a des femmes qui ne vont pas du tout bien prendre ce que je vais dire, qui vont surréagir, ou des hommes qui ne vont peut-être pas comprendre, ou qui ne sont peut-être pas assez matures pour arriver à ce niveau de conscience-là. Mais tant pis, on va lancer tel quel et puis on verra bien. Et donc, j'ai publié le post. Ça a eu l'effet que j'attendais pas du tout. Des centaines de partages, autant de likes. Il y a même un mec qui a partagé ce post qui a été repartagé plus que moi, pour te dire à quel point c'est devenu n'importe quoi. Et donc, dans les commentaires, pareil, un petit peu comme sur le post que j'ai vu sur TikTok, plein d'hommes qui viennent me dire merci d'avoir posé ça quelque part, merci d'avoir dit les choses, merci d'avoir mis les mots aussi, parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'hommes qui sentaient ce que je sentais, mais qui ne savaient pas quels mots il fallait utiliser pour dire ces choses-là, en fait, qui n'arrivaient pas à transformer les ressentis en mots. Donc, ils m'ont dit merci d'avoir mis les mots là-dessus. J'ai eu aussi, dans l'effet contraire, des gens qui n'étaient pas du tout d'accord avec moi. J'ai pris quelques insultes par-ci, par-là. J'ai pris des reproches. J'ai pris un mail de quelqu'un qui a repris mon post et qui l'a déboîté phrase par phrase avec des articles de blog de je ne sais pas où et tout. Enfin, vraiment, beaucoup de réactions. Et je me suis dit, si ça fait autant réagir, c'est qu'il y a un problème de fond, il y a un problème de société, il y a des choses à faire qu'on doit faire ensemble, hommes et femmes. Chacun doit avoir son rôle à jouer là-dedans. Et donc, après ce post, ça m'a amené sur une grosse réflexion de « Ok, c'est quoi la vraie place de la femme? C'est quoi la vraie place de l'homme? Et comment est-ce qu'en occupant chacun notre vraie place, on peut faire un monde un peu plus stylé ?» Et donc, voilà, c'est un peu l'histoire de ce contenu. Et encore aujourd'hui, je reçois des demandes d'amis, je reçois des gens qui viennent me chercher. « Ouais, j'ai vu ton truc, est-ce qu'on peut en parler ?» Et je suis obligé de dire non, c'est pas mon travail à la base du tout, ce sujet-là. Mais voilà, je me suis trouvé un métier, en fait. Je me suis créé un boulot. Et donc voilà, j'en suis au point où y a plein d'hommes qui comprennent ce que j'ai dit, qui ont senti un écho, en tout cas. Et donc, je suis très honoré d'avoir été, entre guillemets, le porte-parole de ça. Je pense pas avoir raison partout. Je pense qu'il y a aussi plein de choses que j'ai dit qui sont peut-être éloignées de ce qui est la vérité pour beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes. Mais juste voilà, j'ai lâché le truc et j'ai dit on verra bien ce qui se passe. Voilà.
Génial. En tout cas, merci pour cette rétrospective. Est-ce que tu peux nous résumer un petit peu en quelques mots ce qui est encore là, ce qui vibre encore pour toi dans ce que tu as partagé et qui, j'imagine, résonne aussi peut-être que tu vas pouvoir nous dire un peu en quoi ça résonne toi avec ton histoire, avec ton cheminement en tant qu'homme. Qu'on puisse rentrer vraiment dans le vif du sujet de cette place de l'homme à côté de la femme et quel rôle chacun joue dans la pièce de théâtre, je dirais.
Alors, pour prendre la pièce de théâtre la plus grande, je dirais que c'est la pièce sociétale, entre guillemets, c'est comment les hommes fonctionnent avec les femmes, peut-être culturellement parlant. Et en fait, alors, peut-être que déjà là, tu vas me dire « je suis pas d'accord avec toi » et c'est tout à fait entendable. Mais moi, j'ai l'impression de vivre dans un matriarcat. Et dire ça, je sais que juste ça pourrait me mettre en danger auprès de plein de gens. Mais alors, vraiment plein de gens. Pourquoi je dis ça? Parce que on a normalisé le fait que c'est les hommes, toujours les hommes, encore les hommes, toujours les hommes, qui ont tous les privilèges, qui ont toujours raison, qui décident de tout, qui ont les plus gros salaires, qui ont... les plus gros bénéfices de la vie, qui ont tout ce qu'ils veulent, grosso modo, et que les femmes sont posées comme les victimes parce que les hommes, ils sont vilains, ils sont pas beaux, c'est le diable, etc. etc. Et en fait, ça me rend fou parce que moi, j'arrive avec vraiment les meilleures intentions du monde. Je me dis, si chacun joue un rôle sain dans les interactions hommes-femmes, on a gagné, en fait. Tout le monde a gagné, il n'y a pas de perdant. Donc, quand je vois les mouvements féministes, les hashtags MeToo, les machins comme ça, alors bien sûr, quand il y a des abus d'un côté comme de l'autre, bien sûr, il faut dénoncer, bien sûr, il faut attaquer, il n'y a aucun problème avec ça. Mais on ne peut pas abuser de ces choses-là. On ne peut pas abuser des accusations et on ne peut pas continuer à diaboliser en espérant que les choses elles aillent mieux. Tu peux pas sauver une société en mettant un parti contre l'autre. Ce n'est pas possible. Soit on fait le travail de réunification, entre guillemets, soit on fait des clans. Ça marche aussi. Il y a des sociétés qui fonctionnent très bien par groupe. Et voilà, chacun fait son truc de son côté et puis c'est très bien. Mais l'idée, c'est que aujourd'hui la société, elle est assez évoluée et je pense qu'on arrive à un moment donné où il va falloir être plus mature que ce qu'on est aujourd'hui, qu'on se remette un peu en question et qu'on se dise, OK, je suis une femme, comment est-ce que je peux contribuer? Je suis un homme, comment est-ce que je peux contribuer? Et comment chacun avec son sexe peut contribuer avec ses prédispositions naturelles. Je prends un exemple très simple. Si tu vas sur un chantier à 14 heures en plein mois d'août, il fait 40 degrés, tu ne verras pas de femme. Et ce n'est pas grave, il n'y a pas de mal à ça. C'est juste qu'un mec sera peut-être physiquement, et je parle biologiquement, sera peut-être plus résistant. Et ce n'est pas grave, et il n'y a pas de souci. Et tu vas dans une école, il y a peut-être sur 10 professeurs, il y a peut-être 8 femmes. Parce qu'elles ont peut-être plus la facilité à créer du lien avec l'élève, à lui enseigner, à le comprendre, etc. Et c'est très cool comme ça, en fait. Il n'y a aucun mal à ça. Donc, je me dis, si chacun juste accepte la nature, se reconnecte à comment on a été conçu en tant qu'animaux, parce qu'à la base, on est des animaux, et c'est égotique que de dire qu'on n'est pas des animaux, je pense qu'on résout pas mal de problèmes, en fait. Parce qu'on se remet chacun dans notre rôle. C'est comme dire à Dark Vador, il faut que tu sois le gentil. Bah non, c'est pas dans ma nature, je suis Dark Vador, je suis censé être le méchant de l'histoire. Bon, alors, le but, c'est pas de faire bien et mal. Mais il y a vraiment cette notion de, tu as ton rôle prédéfini, joue-le, c'est dans ta nature. Donc voilà, pour moi, j'essaye de défendre aussi cette position-là, de chacun a son rôle à jouer. Et une phrase que j'ai dit dans le post qui vraiment peut résumer ma pensée, je disais que si on joue bien notre rôle, l'homme, il va construire la maison. La femme, elle va en faire un foyer. L'inverse peut exister aussi. Mais je sais pas, il y a un truc qui colle pas. Tu vois, je me dis, c'est pas exactement... Tu vois, c'est pas...
Oui, il y a des choses qui sont naturelles. Moi, je te rejoins. Moi, j'ai pas envie d'être un homme. Et je trouve qu'il y a une vraie complémentarité. Si chacun est bien effectivement à sa place, au bon endroit, et que voilà, c'est vrai que les femmes avec l'autonomie, l'indépendance financière, etc. Je suis assez d'accord. Il y a un mouvement qui est en marche, mais ça ne doit pas se faire au détriment de l'homme. On est bien d'accord. C'est que l'important, c'est de marcher la main dans la main et de pas se retrouver tout seul sur le chemin et de se dire mais merde. Il n'y a plus personne, quoi. Enfin, ça n'a aucun intérêt.
Ben, en fait, j'ai l'impression que on est en train de tomber dans un genre de travers où chacun essaye de s'accaparer le rôle de l'autre. Quand tu regardes, c'est les réseaux sociaux, est-ce que c'est représentatif de la société? C'est un débat, c'est pas celui-là, mais les hommes deviennent de plus en plus féminins, pour ne pas dire littéralement des femmes avec tout le mouvement wokiste, etc. Bon, ça, c'est encore autre chose. Et les femmes essayent de plus en plus de devenir des hommes. Les femmes aujourd'hui, alors je ne fais pas une généralisation, mais il y a beaucoup de femmes en tout cas qui vont essayer de valoriser le fait que, regardez, je paye mes factures, je voyage tout seul, je suis célibataire, je n'ai pas besoin d'un homme, je fais des sports plus masculins, je fais du MMA, je fais de la boxe, je fais de la muscu, je fais des choses comme ça. Et d'un autre côté, on a des hommes, ouais, je me suis fait couper les couilles, j'ai plus de virilité, j'ai plus de poils et je porte des talons, du rouge à lèvres. Et tant pis si mes parents ils sont pas fiers de moi. Et pour moi, ça, c'est une société qui est malade parce qu'on joue le rôle qui n'est pas le nôtre. Et ça se voit. Je veux dire, c'est pas parce qu'un homme... en fait, c'est très simple. Est-ce que, en prenant le rôle de l'autre, on aide l'espèce humaine à se développer. Strictement biologiquement parlant, je pense pas. Je pense pas. Donc il y a vraiment cette notion de que chacun reste à sa place et tout le monde ira bien, quoi. C'est un peu ça le.
Ouais, tu vois, moi, de ce que j'ai pu vivre, moi j'ai eu une partie de vie où j'étais très dans une énergie masculine. Je vais parler d'énergie masculine, hein, pas forcément apparence masculine, parce que j'ai toujours été très féminine. Mais moi, le cheminement, il a été de me reconnecter à mon féminin, lui laisser la place. Et il n'y a que à cet endroit-là, quand moi, en tant que femme, je suis dans mon féminin, que je laisse la place à l'homme d'être dans son masculin, en fait. Et ça peut fonctionner que comme ça.
Exact.
C'est, pour moi, c'est une évidence. Et quand quand il y a deux mecs à la maison, ça ne fonctionne pas. C'est pas possible.
C'est clair.
Alors, Baptiste, j'ai envie de te poser la question. Toi, comment est-ce que tu t'es déployé, avec quel modèle masculin tu avais, toi, quand tu étais plus jeune, et comment tu t'es construit pour arriver là où tu es aujourd'hui?
Alors moi, j'ai eu un papa pompier avec une éducation très militaire et des coups de ceinture dans le cul pour tout faire bien droit carré. Donc c'est ce que j'ai eu comme éducation. C'est ce que mon père a eu comme éducation. Et moi, j'ai eu, si tu veux, les réminiscences de ça. Je suis pas un enfant battu. J'étais pas malheureux non plus. Ça allait très bien. Juste, c'était strict, c'était carré. J'ai vécu en caserne. Voilà. Globalement, c'est assez mathématique, quoi. Cependant. Mon père, c'est aussi, je trouve, dans ma famille, en tout cas de mes deux parents, la personne la plus sensible de ma famille. Sauf que c'est celle qui savait le montrer le moins. Et je me rappelle une fois, j'avais eu une rupture amoureuse qui était difficile pour moi. J'étais rentré à la maison, donc je venais de rompre en pleine nuit. Et en fait, je suis rentré à la maison à 3h du matin et surprise, la lumière du salon allait allumer. Il y a mon père à table, il me dit « Je sais ce que tu as vécu comme soirée, assieds-toi avec moi et on va discuter. » Et j'ai passé la soirée à discuter, à pleurer, à dire « Voilà, j'ai vécu ça, j'en peux plus, je suis déprimé, je suis triste, ma vie c'est de la merde. » Bref, je faisais mon caprice et il a été d'une écoute phénoménale et c'est un moment qui restera gravé dans ma tête et dans mon cœur toute ma vie, je le sais. Et en fait, je me dis « Bien sûr qu'il y a de la place pour le féminin chez les plus masculins, et inversement, bien sûr. Mais je pense que si mon père était toujours dans ce féminin-là, de toujours écouter, être dans l'émotion, etc., et pas dans le modèle strict, j'aurais pas accordé autant d'importance à son côté féminin. J'aurais pas accordé autant d'importance à son écoute, etc. Et je me dis que ça pourrait servir d'exemple, en fait, à ceux qui essayent de s'attribuer le rôle de l'autre. C'est-à-dire que quand tu es à fond dans ton rôle, les petits momentums où tu as besoin d'être dans l'autre rôle, parce que ça arrive, alors, il se passe des choses magiques. Et je le vois encore dans mon couple aujourd'hui. J'essaye, en tout cas, je pense incarner du moins le côté masculin. Je m'habille pas comme une femme. Je fais des sports de combat. J'ai de la barbe. Enfin, tout ce qui peut être attrait à, je sais pas, de la virilité, ce genre de choses. Je pense incarner globalement du masculin. Mais ça m'empêche pas que je sais que si avec ma chérie ça va pas ou qu'on a besoin de parler de quelque chose, je vais mettre dans mon féminin et je vais dire ok, on se pose à table, on va parler, on va dire ce qu'on ressent, on va discuter, on va avoir la conversation qu'il faut avoir et on va laisser l'espace à l'autre aussi de s'exprimer. Donc il faut savoir être des deux parties, mais il faut savoir garder une dominance pour son parti naturel pour pouvoir mettre en valeur quand il le faut l'autre partie, en fait, je trouve. Après voilà, je pense que je me suis un petit peu écarté de la question, mais
ouais, donc oui, toi, tu as trouvé quelque part une certaine forme d'équilibre. Tu as eu un modèle qui était quand même assez, assez strict, mais avec quand même des moments où tu as touché du doigt la sensibilité de ton papa. Et toi, tu t'es dit par rapport à ce modèle, tiens, qu'est-ce que tu en as fait de ce modèle? Est-ce que tu as tout gardé? Comment tu t'es construit? Est-ce qu'il y a eu des choses dont ce moment-là a été vraiment un moment d'équilibre pour toi? Parce que tu me dis, est-ce qu'il y a eu d'autres moments d'équilibre pour toi dans ta compréhension pour affirmer ta place en tant qu'homme?
Alors, j'ai vu des limites. C'est-à-dire que autant le masculin que le féminin ont des limites qui sont traitées par l'autre partie. Donc, quand tu arrives à la fin du masculin, tu commences à rentrer dans le féminin. Et quand tu sors du féminin, tu rentres dans le masculin. Donc, c'est un espèce de cercle. Et les moments de ma vie où j'ai essayé de surincarner le masculin, de faire genre je suis trop musclé, je suis trop fort, je suis solide, je suis incassable, je suis discipliné, je me suis cramé. Parce que tu peux abuser de ce que tu veux, ça reste un abus, et quand tu abuses, eh ben, tu payes le prix. J'ai vu ça en sport de combat. Encore aujourd'hui, je suis pratiquant de MMA. MMA, le principe, c'est on rentre dans une cage et on se tape sur la gueule pendant 15 minutes. Et on se tape vraiment sur la gueule. On se fait des clés de bras, des soumissions, des étranglements, tout ce que tu veux. Pendant le sport, je fais le dur. Mais si le mec, il me fait mal, j'ai pas peur de dire, écoute, ça me fait mal. Juste, j'arrête, ça me fait trop mal, c'est trop difficile pour moi. Je sens que ça me crée de la frustration. Je sens que je me sens un peu, je me fais victimiser. Juste, j'arrête pour cette fois, je reviens la semaine prochaine. Ça m'est déjà arrivé. Et ma chérie, des fois, elle me voit rentrer du sport. Alors, des fois, je rentre en mode guerrier, je suis super content, j'ai un œil au beurre noir, j'ai des coupures partout. Je dis, oh, regarde, je reviens de la guerre, je suis trop fier. J'arrive un peu en mode viking. Et des fois, je rentre, je dis, j'ai passé un entraînement pourri, je me sens comme une merde. Je vais sous la douche, et quand je suis sous la douche, je pleure parce que j'ai l'impression d'être vraiment mauvais dans ce que je fais. Et après, ça va mieux. Mais c'est juste, au moment M, où est-ce que tu en es et comment est-ce que tu as envie que ça s'exprime ? Et le but, c'est de juste rester aussi dans, ça je l'ai déjà dit, mais de rester dans ce qui est naturel pour soi. Et jouer le rôle de l'autre n'est pas naturel pour soi. En témoignent tous les acteurs qui sont en burn-out et en crise identitaire. Voilà.
Bon exemple, effectivement. Donc toi, comment est-ce que tu te sens aujourd'hui dans cette danse quelque part entre masculin et féminin, enfin, entre ces deux énergies, parce que j'ai plutôt parlé d'énergie. Comment est-ce que tu danses avec ces deux énergies, justement ?
Alors, Can, il en parlait très bien hier. Il y a cette notion de retour au corps. Et je pense que le corps, il donne l'information de « Ok, est-ce que ce matin, tu te lèves, tu as envie de bouffer le monde ? Ou est-ce que ce matin, tu as envie de te poser, de méditer un peu, de réfléchir à des choses comme ça, à comprendre les émotions ? Est-ce que voilà, tu es plus le conquérant ou celui qui va rester au camp tranquille et qui va un peu chiller pour faire un peu des plans sur la comète. Les deux sont très bien, les deux sont très sains quand ils sont justement dosés, c'est une recette aussi, mais c'est pas tant que je danse, enfin j'appellerais pas ça une danse, c'est plus une question d'harmoniser les choses en fait, c'est de se dire voilà, il y a deux pôles qui sont, et le truc entre les deux, bah, c'est moi, c'est ma singularité, et aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer ? Est-ce que j'ai envie juste d'être dans le faire ? Est-ce que j'ai envie d'être dans l'être ? Moi, la question que je vais me poser derrière, surtout, en tout cas, c'est comme ça que je l'incarne, c'est quel que soit le fait que je sois dans le faire ou dans l'être, tant que ça sert. Je suis dans le service, j'ai envie de créer des choses utiles, peu importe comment ça va sortir. Alors, ça peut être entraîner un mec sur un combat parce qu'il prépare une compétition et bah, moi, je vais être le sac de frappe sur lequel il va s'entraîner pendant une demi-heure. Je suis dans le faire. Et ça peut être, j'ai vu un post qui m'a fait pleurer sur TikTok ou Instagram, je vais créer un post Facebook et je vais juste dire ce que je ressens. Et là, je vais être plus dans voilà, l'expression des émotions, ce qui est peut-être plus féminin. Donc, c'est juste une question de s'écouter et de se connecter au désir de servir et de se dire, voilà, je veux servir. Aujourd'hui, c'est quoi qui est plus juste pour moi ? Est-ce que je sers le monde en étant ou est-ce que je sers le monde en faisant ? Ou un peu un mix des deux. Après, ça dépend voilà, de chacun, comment il voit les choses.
Ouais, ce que je ressens quand tu partages ça, c'est ce côté, je te sens en mission quelque part. Il y a quelque chose qui est plus grand que toi et tu as besoin d'avoir ce côté mission. Je suis en mission, je suis au service et ça se présente d'une manière ou d'une autre. Est-ce que ça résonne avec toi, ce mot mission ?
Ouais, bah, en fait, si tu veux, moi, la mission, elle est très claire. J'ai envie que les gens, ils s'amusent plus. Ça me saoule de voir des gens en burn-out, ça me saoule de voir des gens en dépression, des gens qui passent leur journée à se plaindre, etc. Alors que dans un autre monde, dans une autre vie, c'est des gens qui sont épanouis toute la journée. Il y a toujours des moments un peu plus bas, mais qui arrivent à voir les choses comme un jeu, qui rigolent de tout, qui rigolent de rien, qui sont, voilà, qui sont plaisantins, qui sont taquins, des choses comme ça. Et des fois, j'ai besoin de faire des choses pour le faire comprendre. Des fois, j'ai besoin d'être des choses pour le faire comprendre. Donc ouais, la mission est bien claire pour moi. Et y a des jours avec tel canal et d'autres avec un autre canal pour partager ce message-là. Et je pense que quand on a une mission, que ce soit celle-là ou que ce soit une quelconque autre mission, on se rend compte que toute mission a besoin des deux polarités. tu prends, et je peux aller très loin dans les exemples, tu prends un Napoléon qui veut conquérir le monde entier, qui veut conquérir l'Europe, qui veut prendre la Russie, etc. Il y a des moments, il doit être masculin. Il va lider 250 000 hommes, il va lider des lignes d'infanterie qui vont prendre des balles de mitraille, etc. Il va être obligé d'avoir des grosses couilles poilues, de la grosse barbe et dire voilà, je vais amener des hommes à la mort, en fait. Et il y a un autre moment où il va être dans sa tente avec lui-même. Il va se dire ok, comment est-ce que je me sens maintenant que j'ai perdu 200 soldats et que je vais devoir dire à leur famille qu'ils ne rentreront pas à la maison. Et là, c'est le côté féminin qui va ressortir. Et pour tous les gros accomplissements, pour toutes les grandes missions et les petites missions, il y a ces deux côtés-là. Quand je vois, j'ai une coach du coup dans mon club de MMA, elle est combattante professionnelle, donc c'est une femme. Je vois ces deux côtés chez elle. Je vois d'un côté la sensibilité quand elle mange sa petite tranche de jambon, qu'elle crève la dalle parce qu'elle est en cutting et qu'elle doit perdre du poids dans la semaine, et qu'elle est là, elle dit putain, c'est dur quoi, parce que la préparation d'un combat c'est super compliqué. Je vois le côté féminin qui s'exprime et qui dit j'aimerais que la vie soit un peu plus douce avec moi. J'aimerais que ça soit moins difficile. Et le lendemain, tu reviens, elle est en train de cartonner un mec qui fait 10 kilos de plus qu'elle, et le gars, il a aucune chance de se défendre, en fait. Et il y a ces deux parties-là, et je pense que quand on est au courant, qu'on a de la conscience sur nos deux polarités, et qu'on est à l'aise avec ça, en fait, il n'y a rien qui peut t'arrêter. Ta mission, tu vas forcément l'accomplir. Mais quelle que soit la mission, si tu te lances dedans avec seulement une polarité, tu vas pas y arriver. Soit tu vas en mode guerrier, et ce qui t'attend, c'est un burn-out, c'est une dépression, c'est une crise de sens, c'est une séparation, c'est une rupture, c'est une blessure, c'est des choses comme ça. Soit tu vas en mode féminité à fond, mais tu vas être dans la suranalyse, dans qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce qui se passe, à qui je fais confiance, à qui je fais pas confiance, est-ce que je prends ce chemin ou est-ce que... et être dans la surréflexion. Donc voilà, il faut un peu des deux. Il faut savoir doser et il faut savoir s'adapter aussi à la mission que la vie a choisie pour nous. Voilà.
Ouais, et donc toi, c'est comme ça que tu fonctionnes dans ta vie d'entrepreneur, en fait, en jonglant avec ces deux énergies en permanence.
Complètement, complètement. De toute façon, je sais que moi, je suis quelqu'un qui crée beaucoup. J'ai beaucoup de gens qui me disent, putain, tu fais, il y a les livres, comment est-ce que tu as fait 6 bouquins en moins de 30 ans, alors qu'il y en a, il leur faut une vie pour écrire un livre. Je peux lancer des formations une fois par semaine si j'ai envie. Enfin, c'est des choses que je sais faire. Mais il y a des moments où je me dis, ok, faire, ça ne marche plus. J'ai besoin d'une période où je suis, pas où je fais. Et donc, je me pose, je passe du temps avec ma chérie, je pars en randonnée, je vais faire du sport, je vais souffler, je vais prendre des vacances, etc. Et il faut ces deux polarités, en fait. S'il en manque une, c'est comme une balance.
Quelle place, justement, tu laisses à cette partie-là, cette partie de l'être, quelque part, de je me pose, je me dépose, je m'autorise, je prends du temps pour moi. Quelle partie, enfin, est-ce que ça a toujours été facile pour toi de prendre ce temps ou pas, et qu'est-ce que ça représente dans ton quotidien ou dans ton emploi du temps quelque chose?
Alors la partie être, je ne la vois pas comme une polarité, mais comme une chronologie, dans le sens où je commence par ça à chaque fois et ensuite le bon faire va découler. Mais si je commence à faire des trucs sans avoir pris le temps d'abord, est-ce que je sens que c'est une bonne idée? Est-ce que ça m'appelle vraiment? Est-ce que c'est avec les bonnes personnes? Est-ce que c'est au bon endroit? Est-ce que c'est au bon moment? Etc. Alors, je sais que le faire, ça va partir en couille à un moment donné. Et je l'ai vécu beaucoup trop de fois. Et en fait, quand je regarde juste mon passé, quand j'étais pas encore dans cette mentalité-là de d'abord être, ensuite faire et pour finir obtenir, à chaque fois, c'était anarchique. Je lançais des offres incroyables, mais j'étais pas aligné avec. Donc forcément, ça se vendait pas et ça créait de la frustration. Les relations c'était pareil, j'étais pas avec les bonnes personnes et à chaque fois ça merdait parce que j'étais pas dans cette optique là donc moi je recommande à toutes les personnes qui vous écoutent, entrepreneurs ou pas, commencez d'abord par ressentir, par limite même sentir tout court, est-ce que je suis appelé ou pas, et à partir de là commencez à dire ok, maintenant que je sais que ça m'appelle et ça m'excite et j'ai envie d'y aller, que mon corps m'a donné la validation entre guillemets, t'as les mains qui transpirent, t'as le cœur qui palpite, t'as plein d'idées, t'arrives plus à dormir, etc. Là, c'est bon, ton corps, il t'a dit, vas-y mec, tu peux y aller, c'est bon. Et donc, tu y vas et tu fais les choses. Et là, c'est le moment où il faut être un peu plus masculin, faire preuve de courage, voilà, d'endurance, etc. Moi, je le vois plus comme ça, comme une chronologie, en fait.
Et ça, pour toi, ce n'était pas forcément un schéma qui était naturel dès le départ, hein. De faire confiance à ton intuition, de te poser, etc. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil ou comme message, si tu veux, à faire passer aux hommes qui écoutent cette interview et qui disent « oui, mais bon, moi, je ne fonctionne pas tout à fait comme ça, etc. » qui n'osent pas passer ce pas quelque part, qui paraît évident quand on parle, parce que voilà, tu passes à l'action depuis un autre espace, qui est celui de l'espace du cœur, de l'écoute de soi, de ce qui est bon pour toi, de ce qui est juste, et pas de l'espace du mental, en fait. C'est ce que je ressens dans ce que tu partages.
Moi, je leur conseillerais juste de regarder derrière eux un petit peu sans aller y passer trop de temps, mais juste se dire, OK, c'est quoi les moments les plus stylés que tu as vécu dans ta vie et de quoi est-ce qu'ils sont partis? Et dans 99,9% des cas, le cœur était excité à ce moment-là, en fait. Et donc, l'idée, c'est de juste regarder ce que tu as vécu sans forcément faire une règle, parce que ton passé ne détermine pas forcément ton futur, mais le fait de juste comprendre que c'est déjà arrivé pour toi et pas que pour les autres, alors ça te donne la lumière et tu te dis, OK, si ça a déjà marché pour moi d'avoir une idée du cœur qui, sur le papier, était complètement n'importe quoi, mais que je l'ai fait quand même et que ça a donné une histoire incroyable à raconter, il n'y a pas de raison que ça ne se repasse pas, en fait. Quand je regarde un peu, moi, quand je regarde mon passé, il y avait plein de personnes qui me disaient, ah, faut que tu fasses des conférences, des machins comme ça. Et j'ai dit, moi, les conférences, ça ne me plaît pas. La première fois que je veux parler en public, je ne veux pas que ce soit dans un hall d'hôtel ou même dans un théâtre ou un truc comme ça. Je veux un truc un peu plus original. Et du coup, je me suis dit, je vais faire ça sur un yacht. Parce que voilà, j'avais pas de budget. Un yacht, ça coûte super cher à louer. Et en plus, j'ai bien choisi mon endroit. Je l'ai fait à Monaco, là où c'est encore plus cher. Donc, c'était parfait. Et juste, je me suis dit, je sens que je fais une connerie. Sur le papier, il ne faut pas que je le fasse. Mais le cœur me dit, vas-y quand même, ça te fera une histoire sympa à raconter. Et le truc, c'est que je l'ai fait pour de vrai. J'ai loué le yacht. Je me suis mis dans le rouge. Alors, je ne dis pas aux gens qu'il faut se mettre dans le rouge, mais moi, c'est ce qui m'est arrivé. Je me suis mis dans le rouge. Je n'ai pas été intelligent du tout en termes comptabilité. Mais aujourd'hui, ça fait 6 ou 7 ans, et je t'en parle dans cette interview, c'est une histoire dont je suis super fier et que je referai 1000 fois. Un peu différemment, un peu plus intelligemment, clairement. Mais toutes les bonnes histoires de ta vie, tous les souvenirs que tu vas garder avec toi viennent des décisions du cœur. En tout cas, dans ma vision du monde. Et j'en parle dans le prochain livre que je suis en train d'écrire, justement, j'en parle. Tout le monde te parle de créer un patrimoine financier, achète des actions, de l'immobilier, de la bourse, etc. Machin. Et moi, en fait, je parle aussi d'un patrimoine émotionnel. Le patrimoine émotionnel, c'est les choses qui vont te marquer toute ta vie et avec lesquelles tu vas vraiment repartir. Les histoires incroyables qui te sont arrivées, les relations, les échanges, les moments vraiment émotionnellement très forts, ça, en fait, ça vient toujours d'un appel du cœur à la base. Et si tu veux te constituer un patrimoine émotionnel, qui pour moi est beaucoup plus important qu'un patrimoine financier parce qu'avec ça, tu repartiras, alors il faut partir des décisions du cœur. Ça demande du courage. C'est sûr que c'est pas facile. Mais qu'est-ce que c'est marrant. Donc, il faut vraiment être dans cette optique de tester des choses et voir un petit peu ce qui se passe. Et puis, on est là pour expérimenter à la base. Donc, autant jouer à ce jeu-là avec les règles qu'on nous a données, je me dis.
OK. Et j'ai envie de te relancer sur la question des émotions. En tant qu'homme, est-ce que c'est facile justement d'exprimer ses émotions? Est-ce que comment toi tu as pu cheminer avec ça? Où tu en es aujourd'hui? Peut-être t'as encore à parcourir. Enfin, comment tu te situes par rapport à ça?
Alors c'est surtout par rapport à qui? Par rapport à moi-même, j'ai pas de souci avec ça parce que j'ai grandi assez seul. J'avais très peu d'amis. J'étais quelqu'un dans Je crevais de solitude en vérité. Et donc, mon seul référent et la seule personne à qui je pouvais me confier, c'était moi. Et donc, je me rappelle ce que je faisais quand j'étais petit. Je partais sur un petit chemin en bord de mer. J'y allais tard le soir quand il faisait nuit, quand il n'y avait vraiment personne. J'allais sur un rocher, j'escaladais un petit rocher. Je prenais mon téléphone et je m'enregistrais en train de me donner des conseils et me dire, c'est bon, t'inquiète pas, ça va bien se passer, ça va aller, tu vas traverser ça, etc. etc. Et je me matrixais tout seul, si tu veux, parce que j'avais personne. j'avais pas de feedback, j'avais pas de miroir. Donc par rapport à moi-même, j'ai pas de problème avec mes émotions, je suis très à l'aise avec ça. Ensuite, par rapport, et c'est surtout là où ça va compter, c'est par rapport à qui tu en parles le plus. Moi, la personne qui connaît le mieux mes émotions, c'est ma chérie. Elle sait ce qui me fait du bien, elle sait ce qui m'en fait pas, elle sait qu'est-ce qui me fait souffrir, elle connaît mes zones d'ombre, mieux que moi d'ailleurs. Elle voit quand j'en chie et que j'essaye de le cacher. J'y arrive pas à lui cacher, je peux pas, elle est trop forte pour ça parce qu'elle a appris à lire et moi j'ai laissé aussi le livre ouvert. Et je pense que savoir exprimer ses émotions quand on est un homme, c'est déjà savoir le faire pour soi-même, avec soi-même, pour commencer, c'est pas facile. Parce que quand on a grandi, je sais pas, dans une identité où il faut être un mec super droit, super carré, super dur, etc., on nous a appris à rien dévoiler parce que c'est soi-disant de la faiblesse, ce qui peut être vrai, on pourra y revenir. Mais à côté, si tu déconstruis un petit peu tout ça, tous ces schémas qu'on t'a appris, sans devenir une victime, le but c'est pas non plus de toujours être en train de pleurer, de dire ah ma vie c'est de la merde, nan, c'est pas ça, c'est juste de se dire je suis à l'aise avec le fait de poser des mots auprès de n'importe qui sur n'importe quelle émotion qui me traverse. C'est pas facile au début, mais à force de le faire, c'est comme tout en fait, c'est un muscle. Quand tu pratiques le fait d'exprimer tes émotions, après ça devient facile. Et des fois, bah, tu vas te heurter à des murs parce qu'il y a des gens, même dans ta famille ou quoi, qui sont pas, je vais dire, éduqués à ça. Ils sont pas entraînés à ça. C'est un muscle qu'ils ont pas travaillé à la salle, entre guillemets. Et donc, bah, forcément, c'est quand tu parles avec eux de tes émotions, tu dis voilà, ce que tu me dis, ça me blesse, ou ça me frustre, ou ça me fait du mal, ou des choses comme ça, ils n'auront pas la réaction que tu attends. Mais parce que tu es mature sur ça émotionnellement, tu sais que ce n'est pas grave. Tu dis, ok, je sais que voilà, tu ne peux pas accueillir parce que tu n'es pas peut-être prête pour ça, sans rentrer dans une crise d'ego ou quoi que ce soit. Donc voilà, il y a vraiment cette notion-là. Et le conseil que je donnerais pour avoir un peu plus de pratique, c'est entourez-vous de personnes dans votre couple, dans vos amis, dans ces choses-là, qui ont la maturité émotionnelle ou au moins qui sont dans ce cheminement de construire cette maturité émotionnelle pour vous donner l'espace. Si tu es dans une relation amoureuse, professionnelle, sociale, amicale, circonstancielle, peu importe, si tu es dans une relation qui ne te donne pas cet espace, tu es dans une mauvaise relation. Pour moi, c'est aussi simple que ça. Et peu importe le contexte. Donc, la vraie question, c'est est-ce qu'avec toi, j'ai l'espace dont mes émotions ont besoin ? Sans aller jusqu'à devenir comme le font la plupart des dépressifs, d'ailleurs c'est pathologique, mais ils sont toujours en train de ruminer, ça va pas, c'est pas ça qu'on cherche. Mais ce qu'on cherche, c'est aujourd'hui on est lundi, il pleut, mon business il a pas fait de vente, je dois payer je sais pas combien à l'URSSAF et ça me fait chier, je suis de mauvaise humeur, j'ai mal dormi, j'ai mal mangé, j'ai envie de tirer la gueule et je suis pas bien. Si t'as quelqu'un qui est prêt à accepter cet espace et pour qui toi aussi tu es prêt à accepter de créer cet espace, tu es dans une relation saine. Si c'est pas le cas, change. T'es pas un arbre, tu bouges, tout simplement.
Ouais, c'est que ça revient un peu sur ce que tu partageais dans ton post. C'est un espace pour justement déposer ses émotions et toi en tant qu'homme, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose qui est presque vital pour toi aujourd'hui.
Ah oui, c'est primordial. Alors, à la maison, très concrètement, on n'a pas tous les lundis un rendez-vous où on dit voilà, je vais te dire tout ce qui me fait chier aujourd'hui. C'est pas ça. C'est juste contextuellement, on connaît le cheminement de l'autre. Je sais ma chérie où elle en est. Ma chérie sait où j'en suis, émotionnellement parlant. Et de temps en temps, on sait que l'autre va avoir besoin ou que moi, je vais avoir besoin. Et on a cette écoute et juste de se dire viens, on se pose, on parle. Pas besoin de trouver des solutions au problème, juste comment je me sens face au problème. C'est ça.
Et cet espace d'écoute, est-ce que tu sens qu'il existe aussi pour toi en dehors de la relation de couple, dans la sphère amicale, professionnelle, etc. Est-ce que c'est quelque chose de précieux finalement?
Ouais.
Est-ce qu'il existe cet espace ailleurs?
Ah ouais, je trouve. Enfin, il existe. C'est pas tant qu'il existe, c'est qu'il faut, le créer. C'est surtout ça. Il y a un travail. Donc après, chaque relation, c'est une singularité entre guillemets. Donc chaque relation va avoir un petit peu ses codes, sa manière de fonctionner. Mais je pense que tu peux assainir n'importe, enfin, peut-être pas n'importe quelle relation, mais tu peux assainir une relation qui part en tout cas sur des bonnes bases, juste en faisant comprendre à la personne, en clarifiant le fait que si tu as besoin, je peux me positionner pour te créer cet espace-là d'une manière qui est saine pour nous deux. J'ai un exemple pour illustrer ça. Au MMA, il y a un gars avec qui je me suis fait très pote, etc. Alors, on s'amuse vachement au sport, on va faire des restos ensemble, on s'amuse, etc. C'est quelqu'un qui a traversé des trucs vraiment difficiles dans sa jeunesse, abandonné par ses parents. Il a dû faire toute l'Italie pour revenir en France. Enfin, il a galéré de ouf, etc. Et c'est des choses... Il m'a dit texto, si tu m'avais pas fait comprendre que je pouvais te le dire, j'aurais gardé pour moi, j'aurais rien dit et ça m'aurait pesé toute la journée. Et en fait, quand je vois cet exemple-là, et il a été pareil pour moi, il s'est positionné aussi pour que moi je lâche des trucs, juste pour ça, c'est la personne dont je suis le plus proche aujourd'hui dans le club de MMA dans lequel je suis. Et juste, voilà, en fait, il faut donner cet espace à l'autre, je pense. C'est un devoir.
Comment tu as créé justement cet espace pour qu'il puisse s'exprimer en tant qu'homme ?
Je l'ai dit. Je me suis mis en ce que fait un homme en fait. Juste, bah, on pose des couilles sur la table. Voilà, je sens que ça va pas. Est-ce que tu veux qu'on en parle ? Je serai pas dans le jugement. Juste, voilà, il y a la table. Il y a des trucs dans ton sac à dos. Prends ton sac, pose. Fais-toi un petit peu masser. Ça va aller, tu vois. Tranquille, on discute. Et donc, bah, parce que tu juste en parles, ça fait du bien à l'autre. Et même si la personne elle se livre pas. Le fait de s'entendre dire tu peux déposer, pour un homme, c'est incroyable de valeur. Pour une femme, peut-être moins, parce qu'elle est peut-être habituée à ça, parce qu'il y a cet esprit peut-être un peu de sororité, où voilà, on discute, on est entre nous, entre femmes, etc., on peut en parler. Nous, les mecs, on ne fait pas ça. Et c'est dommage. Et on a un travail d'éducation aussi à faire. Donc moi, je le dis à tous les hommes que je fréquente, les gars, quand ça ne va pas, dites-le. Faites pas semblant, parce qu'on le voit... parce que vous vous faites du mal et parce que nous, vous nous faites du mal à nous aussi parce qu'on ne peut pas vous aider, ça nous fait chier. Moi, quand je vois un mec qui n'est pas bien et qu'il veut juste faire le dur avec moi, pleure. C'est pas grave si tu pleures, je ne vais pas te traiter de pédé. Pleure et ça ira très bien, il n'y a aucun mal à ça. Et quand les hommes, ils arrivent à comprendre ça, et je pense que c'est la mission du sexe masculin en 2024 et dans les années à venir, c'est de prendre conscience de ça, c'est « Ok, on n'est pas en guerre, on n'a pas d'ennemis, on n'a pas besoin de faire semblant. T'es pas bien, tu pleures. Tu pisseras moins et ça ira très bien et tout le monde est content. » Donc voilà, il y a vraiment cette notion-là de savoir livrer et de savoir aussi faire ce cadeau de l'espace dont on a besoin. Quoi.
Qu'est-ce qu'il y a derrière ce côté avoir peur de se déposer, de poser la parole ? Est-ce que c'est un manque de sécurité ? Qu'est-ce qui se passe ? Enfin, parce que voilà, toi en tant qu'homme, tu peux peut-être nous expliquer ce qui se passe derrière tout ça. Pourquoi c'est difficile de se déposer ?
Alors, le petit détail derrière ça, c'est la société. Tout simplement. C'est la société dans le sens où aujourd'hui, la société laisse penser que... Alors, j'essaie de bien choisir mes mots parce que je peux me mettre dans une sauce sans faire exprès. J'ai la croyance que... Comme ça, ça n'engage que moi. J'ai la croyance qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec la société, le marketing, peu importe, ce que les femmes cherchent, c'est la solidité, chez un homme en tout cas, la solidité, la sécurité, les ressources. C'est ce que la femme cherche chez l'homme. Biologiquement parlant, alors je vais être très dans les clichés, mais on vient d'une espèce où l'homme allait chercher le mammouth et la femme préparait le camp, très grosso modo. Hein. Et c'est là où l'homme se sentait en sécurité. Sauf que aujourd'hui, ce qu'on croit comprendre des réseaux, c'est que les femmes, elles veulent le beurre, l'argent du beurre, le crémier, tout ce qui va avec. Et il ne faut pas que l'homme, qui est censé être la sécurité de la tribu, entre guillemets, montre une fragilité. Parce que si tous les hommes d'une tribu sont fragiles, alors la tribu est en danger. Parce qu'il n'y aura personne pour la protéger, il n'y a rien de solide. Sauf que ça, ce n'est plus le cas maintenant. Alors, il faut encore garder ce côté, on est des hommes et on protège. On a ce devoir, je pense, de protéger en tant qu'homme. Mais on ne peut pas faire que ça. On a besoin de dire à un moment donné, je veux bien aller au travail, faire des heures et des heures et des heures sur le chantier, tout ce que tu veux. Mais quand je rentre, juste avoir ta femme qui te dit, est-ce que au travail ça s'est bien passé? Est-ce que tu veux me dire un petit peu comment ça s'est passé? Très cool. Il faut le faire, je pense. Donc, il y a vraiment cette notion de cette société qui devrait arrêter d'accumuler les critères. Ouais, en fait, il y a trop de critères. Il y a un mec sur TikTok qui me fait marrer, qui reprend les contenus de plein de femmes qui disent « Ouais, ça, c'est un red flag, ça, c'est un red flag, il ne faut pas qu'il porte telle chaussure, il ne faut pas qu'il fasse tel truc, etc. » Et le mec, en fait, il a une liste et il scrolle à chaque fois qu'il rajoute un truc et il y a, je crois, 450 critères, un truc comme ça. Et à la fin, il dit « Voilà, si vous voulez être un vrai homme, vous devez respecter ça. » Et en fait, il scrolle la liste et on se rend compte que les critères qui sont donnés par des femmes, notamment des jeunes qui sont dans une mentalité où elles ont tous les pouvoirs, il faudrait que les hommes répondent à une liste impossible à tenir de critères. Il faut être beau, il faut être intelligent, il faut avoir un paquet d'argent, il faut venir d'une bonne famille, il faut bien s'habiller, il faut sentir bon, il faut avoir les dents propres, il faut avoir des beaux vêtements, il faut avoir une belle voiture, il faut pas avoir de copine femme, il faut pas ceci. Et en fait, c'est devenu difficile. Donc je pense que la société, sans dire que toutes les femmes participent à ça, attention, je mesure mes propos, mais sur les réseaux, on amplifie ça et les hommes tombent dans le piège de croire que c'est la norme. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup de femmes en fait qui surestiment. Alors je vais être très très ça va faire jaser, mais tant pis. Une femme perd en valeur de marché avec l'âge, et en fait, vu qu'on a de plus en plus de jeunes femmes avec les taux de natalité, etc., elles n'ont pas conscience de ça. Et donc, elles se disent, je suis belle, donc j'ai droit à tout. Sauf que quand tu as 50 piges et qu'il n'y a plus un mec qui veut baiser avec toi, je le dis très, très franchement, tu vas commencer à comprendre comment les vraies relations hommes-femmes fonctionnent et que montrer ton cul sur Instagram, ça ne suffit pas. Tu as besoin d'apporter plus que ça. Et aujourd'hui, on est dans une société qui fait comprendre le contraire. Où on te dit, aujourd'hui, si tu es une femme, tu vas ouvrir un OnlyFans. Tu vas vendre des abonnements ou tu vends tes fesses, tu te fais 1 million et tu dis que tu es une self-made millionnaire parce que tu es super intelligente et tu es la meilleure. Et ça, c'est un parcours normal en 2024. Et moi, ça me rend ouf en tant qu'homme de me dire qu'à côté, si moi, je vends des photos de mes pieds, on va juste se foutre de ma gueule sur Internet, en fait. Et il y a des femmes qui sont millionnaires parce qu'elles font ça. Et voilà, en fait, c'est pour ça que je disais tout à l'heure au début de l'interview qu'on vit dans une société qui, pour moi, est un peu plus matriarcale qu'on voudrait le croire. C'est parce que beaucoup de choses encouragent le pouvoir des femmes, ce qui est très bien, mais au détriment des hommes, ce qui n'est pas
bien. Quelque part, ça polarise la société, en fait.
C'est ça.
C'est pas souhaitable. Selon toi, qu'est-ce qui permettrait justement de d'entrer dans une nouvelle ère où justement on est plus en inter, en codépendance, en interrelation et pas chacun dans nos polarités. Ce qui semblerait important.
Alors déjà la première chose c'est de nous dématrixer. Il faut mieux choisir le contenu qu'on regarde. Juste mettre l'ego de côté pendant 5 minutes et se dire ok, tout le contenu que je bouffe sur les relations hommes-femmes, est-ce que ça sert ce que j'aspire être une relation homme-femme saine? Et là, déjà, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Et ça marche dans les deux sens. D'un côté, il y a les femmes qui disent, voilà, moi, je veux une vie où j'ai 50 000 hommes, j'ai l'abondance, etc., en apportant zéro valeur. Mais de l'autre côté, et attention à ça aussi, il y a une communauté extrêmement toxique d'hommes qui disent, les femmes, c'est le mal, faut pas y toucher, faut rester loin, c'est bon qu'à te prendre ton argent et à te soutirer ton temps et ton énergie. C'est faux aussi. Donc, il faut faire attention déjà aux deux polarités. Et pour faire attention aux polarités, il faut prendre conscience qu'elles existent. Donc, déjà, se dire, OK, comment est-ce que moi, je me situe par rapport aux deux polarités? Est-ce que je suis déjà dans une optique d'opposition à l'autre? Si c'est le cas, c'est sûrement que tu es dans une des deux polarités. Une fois que tu t'es nettoyé un petit peu la tête avec tout ça, c'est de te dire, OK, je suis un homme ou je suis une femme, peu importe. C'est quoi mon rôle? Un rôle sain pour servir la relation avec l'autre sans que ça me coûte. sans devenir la victime ou créer un espèce de triangle de Cartman dans ma relation. Et le fait de juste se poser ces questions, j'ai la croyance que c'est suffisant, parce que ce qu'il faut aux gens, c'est pas changer les comportements, c'est changer les sources d'influence et les modèles de pensée. C'est de se dire, ok, c'est quoi mon rôle dans le couple? Et à partir de ça, en quoi ça m'aide moi? Tout simplement. Donc voilà, moi je le vois vraiment comme ça. Après, bon, j'entends qu'il y a des gens qui ne seront pas forcément d'accord, mais ça ne veut pas dire que... C'est comme par exemple, il y a beaucoup de gens qui se battent pour l'égalité des droits. Moi, je ne suis vraiment pas pour l'égalité des droits. Je suis pour l'équité des droits. C'est-à-dire que tu as les droits et les devoirs qui incombent à qui tu es. Parce que sinon, autant avoir autant de droits qu'un poisson. Parce que qu'est-ce qu'il a de si différent que nous? Il a des poumons, il respire, tout va bien. Donc en fait, c'est ça le truc, c'est de se dire... Chacun, de par sa nature, a des droits, des devoirs, des contraintes, des bénéfices, des avantages. C'est faux de dire qu'il y en a qui ont des avantages plus que d'autres. Les hommes ont aussi énormément de désavantages juste parce qu'ils sont des hommes. Et c'est des choses que j'ai envie de mettre en lumière, dont j'avais parlé du coup dans le post. Et du coup, ces choses-là, en fait, il faut que les femmes en aient conscience, tout comme les hommes doivent avoir conscience des besoins des femmes, de ce en quoi elles aspirent. Et ensuite, de dire, ok, moi je le fais avec ma chérie, je lui dis voilà, toi c'est quoi tes besoins dans la relation, qu'est-ce que tu veux que je t'apporte en tant que l'homme de la relation, et je lui dis pose-moi très clairement les besoins, besoin de sécurité, besoin de liberté, besoin de complaisance, besoin peut-être de voyager, de vivre des expériences, de parler à plein de gens, peu importe les libertés que tu vas me demander, tant que c'est en accord avec ma valeur, c'est cool, je te les donne, il n'y a aucun problème. Et je t'impose rien. Et en échange, elle va me poser la question, tiens, dire, ok, toi, Baptiste, c'est quoi tes besoins à toi? Et moi, je vais dire, bah, moi, j'ai besoin de tel critère, tel critère, tel critère. Et on se met d'accord. En fait, on on communique, on écoute.
On a besoin de communiquer, en fait.
C'est ça. En fait, ouais, ça
revient à l'intérieur. Quelque part, parce que dans une relation, c'est deux mondes qui se rencontrent. Et on est très différents et on n'a pas le même mode de fonctionnement. Et si tout simplement... on ne communique pas sur les besoins de l'un, de l'autre, est-ce que je peux aller dans répondre à ces besoins ou pas. Si on ne communique pas, il ne va rien se passer.
C'est ça. Mais en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est la même approche qu'avec mon business. C'est juste comment je sers, comment je me rends utile. Comment tu sers la relation. Et moi, c'est la mentalité que j'ai. Dès que je fais un post sur Facebook, ok, comment je sers, qu'est-ce que j'apporte de vrai, pas juste j'ai une offre, il y a un tarif promotionnel et tout. Non, là j'apporte pas, je demande l'argent des clients, etc. Par contre, dans la relation, c'est surtout la question comment est-ce que je sers la relation et quelles questions je dois poser pour servir la relation, quelles questions je dois poser pour que l'autre puisse faire émerger les réponses qui vont lui convenir et qui vont la servir, et seulement là je sers la relation. Le truc, c'est que maintenant on est dans une optique où tous les gens ils pensent d'abord à leur tête. Voilà, oui, nous les femmes ou nous les hommes. Ouais, non, c'est ok. Nous, on est les femmes, comment on aide les hommes? Nous, on est les hommes, comment on aide les femmes?
Je dirais, c'est comment je peux servir la relation tout en me respectant. C'est un point aussi vachement important.
Carrément.
Parce que ce n'est pas mettre de côté non plus. Mettre dans la relation, satisfaire l'autre, s'oublier, parce qu'on voit aussi, c'est un schéma qui est quand même assez classique aussi. Hein. C'est voilà, je veux faire plaisir, je réponds aux besoins d'autres, mais enfin, je dirais, dans une relation. Je dirais avant tout, c'est chacun est responsable de son bonheur, et après, la relation, c'est un plus aussi.
Carrément, 100% d'accord.
Par rapport à ton corps, au lien avec ton corps, la connexion avec ton corps, parce que tu en as parlé à certains moments, tu challenges aussi ton corps avec les sports de combat, tout ça, qui développe aussi ta force, du côté masculin, je pense que c'est important. Est-ce que c'est quelque chose, tu as toujours été connecté à ton corps, ou c'est quelque chose qui s'est développé, ou c'est une intention particulière que tu as mise à un moment donné?
Alors, si tu veux, moi, mon père, tout jeune, il m'a dit... tu vas apprendre à faire des sports de combat. J'ai démarré de suite. À 3 ans, j'étais déjà en train de faire du karaté à côté de Monaco. Et à 5 ans, j'avais ma première petite coupe de compétition. Donc, j'ai grandi dans un environnement qui m'a donné qui m'a appris à appréhender mon corps, à me faire comprendre que là, j'ai une courbature, là, j'ai mal, là, je sens que si je monte pas ma garde, je vais m'en prendre une, il va falloir que je monte ma garde. Et j'ai appris en fait à jouer avec mon corps. Pour autant, je danse comme un mikado, hein. La danse, c'est n'importe quoi. Je suis rigide comme une planche. Mais je me suis quand même approprié mon corps à ce niveau-là. J'ai toujours aimé marcher aussi. Quand j'allais au lycée, au collège, etc. Alors, le collège, je me rappelle, c'était 10 minutes de bus contre 45 minutes à pied. Et on commençait à 8 heures du matin. Et ben, j'allais quand même à pied. Parce que je me disais, c'est trop cool de juste me dire que tous les gens, ils apprennent en fait à être mou, à être amené quelque part. Moi, je veux que mes jambes, elles m'amènent quelque part. Et à chaque fois que je voyais quelqu'un en fauteuil roulant, je renforçais ça. Je me disais, il y a des gens, ils n'ont pas la chance en fait de pouvoir marcher. Donc, j'ai appris et j'ai grandi dans le fait d'avoir un corps à ma disposition, de l'utiliser correctement. Et petit à petit, en fait, j'ai affiné mon écoute du corps en mettant du féminin dedans. C'est-à-dire que au début, on t'apprend, en tout cas dans les sports de combat, on t'apprend la rigueur, la douleur. Quand tu prends un coup dans la tête, comment tu fais juste à pas tomber KO. Quand tu prends une soumission et que tu respires plus, est-ce que tu as le réflexe de taper pour abandonner ou de chercher quand même une solution alors que tu ne respires plus. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Donc, on t'apprend vraiment la partie force. Et petit à petit, quand tu affines ta sensibilité à ça, tu apprends que même les sports de combat, je sais qu'il y a des gens, ils vont pas comprendre ce que je veux dire, mais je pense que même qu'il y a que les combattants qui vont peut-être comprendre ce que je veux dire, mais il y a une forme de douceur dans les sports de combat. Même dans une cage où il y a du sang partout, etc., il y a une forme de douceur parce que quand tu prends un coup, tu es obligé d'écouter l'information qui arrive, tu es obligé de ressentir l'information, tu es obligé de te dire là, j'ai mal au genou. Je ne peux plus combattre debout, il faut que je combatte au sol et que je passe en lutte. Parce que debout, je ne tiens pas debout et je vais me reprendre une, je vais être KO. Et ça, c'est le côté féminin qui fait le travail, ce n'est pas le côté masculin. Le côté masculin, c'est je vais bêtement rester debout, je vais continuer à frapper et au bout d'un moment, je vais en prendre une, je vais tomber parce que je ne me serai pas écouté des deux côtés, des deux polarités en fait. Et je pense qu'un bon combattant, alors autant littéralement dans un sport de combat que métaphoriquement dans la vie de tous les jours, un bon combattant, il sait écouter son corps autant de manière féminine que de manière masculine. Et tu prends n'importe quel combattant professionnel, la première chose qu'on fait quand on sort de la cage, c'est aller voir un médecin, voire même aller à l'hôpital. Ok, on va traiter les blessures, etc. On se fait un petit câlin parce qu'on s'est bien battu. Et quand tu regardes des guerres à l'UFC, par exemple, où ils se foutent sur la gueule, mais vraiment, ils se font des blessures de malade, j'ai vu un gars qui s'est retourné un orteil, cassé des bras, etc. La première chose qu'ils font, après s'être mis sur la gueule pendant 25 minutes, c'est un câlin. C'est un câlin, c'est de la douceur. C'est « merci mec, j'adore ce que tu fais, c'était un super combat, j'ai adoré, etc. » Alors moi, je ne fais pas des combats comme ça, mais au club, c'est pareil. Quand on fait un sparring un peu lourd, où on appuie, où vraiment on se fait mal, quand il y en a un qui met un coup trop fort, la première chose qu'il fait, c'est ça va mec, je t'ai pas fait trop mal, tu tiens encore debout, tout va bien, tu veux qu'on s'arrête. Et il y a cette douceur là en fait. Et les personnes qui sont les moins appréciées en MMA, c'est les sparring partners qui sont là pour te frapper, pour faire mal, mais qui sont pas là pour écouter l'autre en face. Donc il y a vraiment une similarité avec la danse en fait. Et la danse, c'est l'exact opposé. C'est-à-dire que la danse, tu vas peut-être commencer par être dans une ça va être beaucoup plus j'ai pas le mot. C'est plus subtil, c'est plus doux, c'est voilà, tu t'appropries beaucoup plus de douceur, c'est plus rond en fait. Et je pense que quand tu montes en niveau dans la danse, même la danse classique par exemple, là ça devient plus masculin. Voilà, ça devient plus dur. Il y a le film Black Swan avec Natalie Portman où au début tu vois que c'est doux, c'est subtil, c'est joli à regarder, c'est artistique, c'est rond. Et plus elle monte, plus ça devient exigeant, masculin, difficile, sanglant. À un moment donné, elle monte, il y a un plan où elle montre ses chaussures. Il n'y a plus d'ongles. C'est affreux, mais là on est dans du MMA, en fait. C'est violent. Et c'est des blessures que tu ne retrouves pas en MMA, un ongle qui s'arrache. Donc, il y a vraiment cette notion de de s'approprier dans son corps les deux polarités et de voir à chaque fois à quel moment est-ce qu'elles nous servent. Et il y a des sports et des épreuves aussi dans la vie qui vont nécessiter telle polarité en premier et d'autres où ça va être le contraire. Si tu es dans... si tu as, je sais pas moi, tu as un accident de voiture, c'est le masculin qui va devoir travailler de suite. Ok, comment est-ce que je sors du véhicule? Comment est-ce que je sors les passagers? Appeler les gens, les pompiers, appeler les pompiers, appeler les secours, etc. Par contre, tu as une rupture amoureuse ou un divorce ou une dispute avec quelqu'un de ta famille que tu aimes, etc. Là, c'est pas question de courir vite dans ta cuisine pour aller manger un truc. Là, c'est question de, ok, je souffle, je me calme. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je fais avec ce que je ressens? Comment est-ce que je traite l'information? Comment est-ce que je suis pour que ça m'impacte pas trop? Comment est-ce que j'adoucis, en fait, ce qui vient de m'arriver? Et ensuite, tu vas rentrer dans le faire et tu vas dire, ok, bon, bah, j'appelle machin à qui je me suis embrouillé, on discute, on en parle, on règle le problème. Donc voilà, c'est vraiment une question de le problème que tu traverses, quel est le pôle dont tu as besoin en premier pour le traverser? Et ensuite, tu vas finaliser la résolution du problème avec l'autre pôle, en fait.
Merci pour ce partage. J'ai envie de te poser la question, là, parce qu'on va bientôt clôturer. Quel message tu as envie de faire passer aux hommes qui vont garder cette interview, qui vont écouter?
Je leur dirais d'oser parler, oser dire les choses. Moi ça a sauvé ma vie. Ça m'a sûrement sauvé d'une dépression. Je pense que ça m'a peut-être sauvé du suicide aux périodes les plus pourries de ma vie. Parce qu'à un moment donné, j'ai dit, si je parle pas et que je garde tout à l'intérieur, je vais exploser. Je pourrais rien faire d'autre. Donc j'ai parlé. Et à chaque fois que j'ai parlé, c'est parce que quelqu'un m'a assez aimé pour me donner l'espace de parler. Et je fais référence du coup à mon père à ce moment-là. Quand j'ai eu cette fameuse rupture, je pensais que j'allais exploser en rentrant chez moi, que j'allais me foutre en l'air. Il le sait peut-être pas, il m'a sûrement sauvé la vie parce que et en plus c'était très immature de ma part de me dire ah, je vais me donner la mort parce que j'ai perdu une copine. Ça n'a aucun sens de faire ça, ne faites pas ça, mais parce que il a dit voilà, je vais te donner l'espace, alors j'ai pu accueillir ça parce que j'en avais besoin. Et donc il m'a montré l'exemple en fait pour les hommes aujourd'hui à qui je peux parler, accompagner, etc., peu importe, parce qu'on m'a donné l'espace, je sais donner l'espace à des gens qui, j'ai eu mon club de MMA, j'ai eu des gens, ils étaient en burn-out, ils étaient cramés, etc., en dépression, endeuillés, ils ont perdu leurs enfants dans des accidents de voiture, des choses comme ça. Ils ont compris que j'étais la personne à qui on pouvait parler. Ça ne veut pas dire que je vais donner des solutions, mais je vais donner l'espace pour juste enlever le poids de tout ce qu'on ne dit pas, en fait, parce que c'est lourd. Ce qu'on ne dit pas, ça a du poids, et plus tu accumules, plus tu vas devoir payer le prix à un moment donné. Donc voilà, j'essaie de me positionner comme ça. Donc, à tous les hommes qui m'écoutent, je leur dirais, créez l'espace et accueillez aussi l'espace que les gens vous donnent. Même si des fois, c'est fait de manière maladroite, ça peut être quelqu'un qui n'est pas très subtil, qui va dire, allez, c'est bon, vas-y, dis ce que tu as, lâche la grappe, fais des trucs, dis ce que tu as envie de dire. Ça peut être dit un petit peu, voilà, un peu à l'arrache, mais sachez écouter ça et voilà, créez l'espace et donnez l'espace et ça peut améliorer toute votre vie, je pense. Voilà.
Message. Et est-ce que tu auras un message pour les femmes qui écoutent ces interviews pour mieux comprendre les hommes, justement, aussi?
Déjà, allez lire mon post. Comme ça, oui, il y a le mode d'emploi. Poste, ouais. Je ne suis pas une femme, donc je me dis, je ne pense pas être le plus qualifié.
Non, mais pour, s'il y a quelque chose qui vient ou pas, il n'y a pas, il n'y a aucune obligation.
Je leur dirais de donner l'espace, en fait. De donner l'espace aux hommes, on en a besoin. Après, est-ce que l'homme est assez mature pour comprendre? Parce que nous, on est un peu con pour comprendre aussi rapidement les choses. Est-ce qu'on est assez mature pour voir l'espace que vous nous donnez? Pas toujours. C'est vrai que des fois, la femme, elle va dire, voilà, parle-moi des choses. Et nous, on va dire, non, mais c'est bon, ça va, laisse-moi tranquille. Ça peut arriver. Donc, si monsieur n'est pas conscient de l'espace, donnez-lui au moins de la patience. On a besoin de temps pour cheminer sur ce truc-là. Et respectez-vous aussi par rapport à ça, soyez écologique pour vous, et ne nous voyez pas surtout comme des ennemis. On essaye de faire ce qu'on peut, du mieux qu'on peut. Des fois on est nul, c'est vrai, mais voilà, on est je, je pense. Je ne parle pas au nom de 100% des hommes, parce qu'il y a des trous du cul partout. Mais on essaye de faire de notre mieux. En tout cas, je pense. Moi, oui, en l'occurrence. Après, voilà, je pense que voilà, j'ai à peu près tout dit.
Génial. Merci. En tout cas, Baptiste, pour on va dire ce mot de la fin. Est-ce que tu avais autre chose que tu avais envie de rajouter dont on n'a pas parlé? Je pense qu'on a quand même fait pas mal de tours. Est-ce qu'il reste une dernière chose?
Ouais, un dernier truc pour toi, du coup, pour te remercier. Parce que du coup, tu donnes la parole à 108 hommes. Toutes les femmes ne font pas ça. Donc, bravo pour ça et merci pour ça. Et écoute, félicitations pour ton travail. Et j'espère que ça va avoir la visibilité que ça mérite, parce que je pense que ça peut aider beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hommes à se sentir mieux. Donc, c'est cool pour ça. Merci pour ça.
Merci à toi, Baptiste. En tout cas, si vous êtes arrivé à la fin, je vois Cannes qui nous fait un coucou à la fin. Si vous êtes arrivé à la fin, je vous invite vivement à visionner cette interview que nous a partagé Baptiste aujourd'hui. C'était chouette, encore plein de pépites. Hein. Tous les jours, c'est des nouvelles pépites, j'adore. Et sinon, vous pouvez retrouver cette interview sur la page Facebook de Baptiste, la mienne, nos chaînes YouTube respectives et puis mon compte Instagram également. Voilà. Bien diffusé en direct un petit peu partout. Et puis, sinon, je vous dis, je vous souhaite une merveilleuse journée. Puis, je vous dis à demain, à 13h, pour un nouveau rendez-vous. Il y en aura encore un demain et vendredi. Et ça continue. Voilà, on va bientôt dépasser, arriver à la quarantaine d'interviews. Voilà, on vous fait des gros bisous. On vous embrasse bien, bien fort. Ciao, ciao. Et n'hésitez pas, si jamais vous avez des questions, à chaque fois sous la vidéo, vous pouvez poser des questions et rentrer en contact avec Baptiste, bien évidemment, si vous avez envie d'échanger plus avant sur ces sujets-là. Voilà. Ciao, ciao. Au revoir tout le monde. Bye.